Eh bien, aujourd'hui, nous retournons dans l'évangile de Jean. Le voulez-vous? Puisque je vous propose tout au long de cette année de suivre en quelque sorte les pas de Jésus à travers le témoignage que l'apôtre Jean nous donne. Et son témoignage est vrai, n'est-ce pas? C'est ce qu'il écrit, hein? Le témoignage de Jean est vrai. Nous allons lire Jean chapitre 1er, verset 6, et puis ensuite nous irons un peu plus loin. Jean chapitre 1er, verset 6, « Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Non pas Jean l'apôtre, mais Jean le Baptiste. « Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Verset 19, bien voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Mais toi, qui es-tu ?» Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Il dit « Mais je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Il répondit « Non. » Ils lui dirent « Alors, qui es-tu ? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Et Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. En 1948, la guerre froide prenait son essor. Harry Truman était réélu président des États-Unis et Staline gouvernait d'une main de fer l'URSS. Gandhi était assassiné par un extrémiste et Israël était attaqué par la Ligue arabe. La Déclaration universelle des droits de l'homme était adoptée. En 1948, toujours, un jeune évangéliste prêchait sous une tente près de Hollywood en Californie. Et si au début les foules étaient éparses, rapidement elles grandirent. Et puis des célébrités du cinéma vinrent, entendirent la parole et se convertirent. Et dès lors, les médias ne pouvaient ignorer ce qui se passait. Et l'on commença à parler de ce jeune prédicateur habillé d'une drôle de façon, avec un costume de couleur vert pistache et des cravates rouges flamboyants. Malgré tout cela, ses prédications remuaient des foules entières et les amenaient à Jésus-Christ. Quelque chose de divin se produisait, c'était le début du ministère de Billy Graham. Comme il en fut pour Billy Graham en 1948, ainsi en fut-il au début du ministère de Jean le Baptiste. Luc nous rapporte qu'au début de ce moment où il prêcha, Tibère César régnait à Rome, Ponce Pilate gouvernait la Judée, Hérode était tétrarque de la Galilée, et Anne et Caïphe étaient souverains sacrificateurs à Jérusalem. Comme en 1948 et comme aujourd'hui, le monde de Jean-Baptiste était rempli d'effervescence, de bruit, de politique et de religion. Et parler pour Dieu était souvent comme parler dans le désert. Beaucoup de bruit et les hommes n'entendaient point, les hommes ne prenaient pas attention à cette voix. Billy Graham était un jeune homme en 1948, Jean-Baptiste était aussi un très jeune homme quand il commença à prêcher. Il n'avait pas même 30 ans. Et lui aussi était accoutré d'une drôle de manière. Il ne portait pas de costume vert clair, mais il était habillé avec une peau de chameau. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel. Mais lui aussi avait un message puissant, un message qui impactait les foules. Peut-être au début n'était-il là que quelques dizaines, mais rapidement on parla de ce qui se passait dans le désert. Et ce sont des centaines, des milliers qui quittèrent leur ville, leur village, leur maison, leurs champs, leurs ateliers, leurs bateaux de pêche, leurs troupeaux, pour aller entendre cet homme qui prêchait un baptême de repentance et qui surtout leur annonçait la venue du Messie. Et finalement, devant le succès immense remporté par Jean, les leaders religieux et politiques de Jérusalem et d'ailleurs oublièrent leurs affaires religieuses et politiques et s'intéressèrent à ce phénomène. Mais de là à quitter Jérusalem, non, ils envoyèrent une délégation. Une délégation pour enquêter au plus près. Et Jean l'apôtre nous rapporte donc les circonstances de cette rencontre dans le passage que nous venons de lire, des versets 19 au 30 à 34. Nous l'avons lu aussi, Jean, dès le début de son livre, nous présente Jean-Baptiste. Et il nous le présente comme le témoin de la lumière, c'est son ministère, son rôle. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean n'était pas la lumière, Jésus est la lumière de Dieu qui éclaire tout homme et qui conduit à la vie. Jean était celui que Dieu avait envoyé pour préparer les hommes à recevoir la lumière en rendant témoignage d'elle. Mes frères et sœurs, à notre tour, quelles que soient les circonstances et les bruits de ce monde politique, religieux, de tout ordre, il y en a des bruits. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre allure, notre manque de reconnaissance de la part des hommes, nous sommes à notre tour appelés à être dans notre génération une lumière et à rendre témoignage de la grande lumière qui est Jésus-Christ. Et mon but ce matin est de vous montrer à travers l'exemple de Jean ce qu'est être un témoin de la lumière. Et la première chose qui nous interpelle, c'est que pour être un témoin de la lumière, il faut d'abord reconnaître qui nous ne sommes pas. C'est ce que nous voyons versets 19 à 21. Les chefs de Jérusalem avaient donc envoyé une délégation faite de sacrificateurs et de lévites, un beau collège, pour aller voir toute cette agitation prophétique dans le désert et comprendre ce qui se passait. Parce que ces chefs religieux avaient convenu entre eux que ce jeune homme était une énigme. D'où venait-il? De quelle autorité pouvait-il se prévaloir? Pour qui se prenait-il? Alors quand ils arrivèrent, d'une manière assez imposante, ils lui adressèrent cette question. « Dis donc, toi, qui es-tu ?» Ce qui est surtout marquant, c'est que Jean leur répondit en disant qui il n'était pas. Ou plutôt, comme le texte le dit dans l'original grec, il confessa. Il confessa qui il n'était pas. N'est-ce pas là la première marque d'un homme de Dieu? Parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui encore, les hommes veulent affirmer qui ils sont. Mais lui, Jean, commença par affirmer qui il n'était pas. À vrai dire, ça n'intéressait pas de parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être le premier. Il n'était pas la lumière. Lui n'était qu'un simple témoin. Et pour Jean, l'important, c'était celui qui devait venir, celui qui l'annonçait, la lumière. Alors il leur dit, je ne suis pas le Christ. À l'époque de Jean et en Israël, il y avait une grande attente messianique. Comme aujourd'hui, il devrait y avoir une grande attente du retour de Jésus-Christ dans l'Église. Et à l'époque de Jean, Israël était asservi depuis 150 ans par les Romains. Ils avaient perdu leur indépendance. Le sacerdoce de Jérusalem était déclinant. La foi juive n'était plus qu'un ensemble de rites et de traditions. Et puis ça faisait 4 siècles que plus aucun prophète n'était paru. 4 siècles que Dieu n'avait pas parlé à son peuple. Et donc, quand le peuple apprit qu'un jeune homme comme Jean-Baptiste s'était levé, était envoyé de Dieu pour proclamer la parole. Alors, il y a eu naturellement de nombreuses spéculations qui ont commencé à monter. Ne serait-il point le Messie ? Mais Jean repoussa tout cela. Non, non, je ne suis pas le Christ, confessait-il. Alors ils ont continué. Bon, tu n'es pas le Christ, certes, mais es-tu Élie ? Quelle drôle de question. Es-tu Élie ? Ne savait-il pas qu'Élie était mort il y a plus de 8 siècles ? Certes, il y avait des choses dans la personne et le ministère de Jean-Baptiste qui rappelaient aux hommes le prophète Élie, son accoutrement. Comme Jean-Baptiste, Élie était habillé d'une peau de chameau. Comme Jean-Baptiste, Élie était un homme très rustique. Il vivait dans le désert, se nourrissait presque de ce qu'il trouvait. Et puis, il y avait aussi ce point commun. Leur prédication était sans détour, directe. La parole est rien que la parole de Dieu. Seulement, Élie, je l'ai dit, avait vécu il y a 8 siècles déjà. Mais pourquoi pose-t-il cette question ? Parce qu'il existe dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Malachie, chapitre 4, verset 5, une prophétie qui dit qu'Élie précéderait l'arrivée du Messie. Voici, je vous enverrai le prophète Élie avant que le jour de l'Éternel arrive. Alors la question est de savoir, serait-il possible que Jean soit le prophète Élie réincarné ? Alors je le dis tout de suite, non. Non, parce que jamais la Bible n'évoque de près ou de loin quelque chose qui ressemblerait à de la réincarnation. Puis, Élie n'était pas mort. Mais il était parti âgé et vivant vers le Seigneur dans un char de feu au milieu d'un tourbillon de feu. Donc. Et Jean le confirma d'ailleurs, je ne suis pas Élie. Alors, déjà, j'entends la question qui vient. Oui, mais Jésus n'a-t-il pas dit aux disciples, au sujet de Jean-Baptiste, qu'il est l'Élie qui devait venir ? Y aurait-il contradiction là ? Moi, je crois que, simplement, le Seigneur signifiait à ses disciples que l'Esprit, l'onction, le ministère d'Élie reposait maintenant sur Jean. Et par cet esprit, Jean accomplissait en partie les prophéties. Mais encore une fois, en aucun cas, Jean serait Élie réincarné. Alors ils ont continué. Es-tu le prophète ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand ils disent le prophète, ils font référence à un texte de l'Ancien Testament qui date de l'époque de Moïse, Deutéronome 18:18. Vous savez que Moïse fut un prophète à part. Parce que Dieu parlait face à face avec Moïse. Il n'y a pas eu d'autres prophètes comme lui. Concernant les autres prophètes, Dieu se révélait à eux à travers des images, des songes. Il parlait face à face avec Moïse. Et Dieu dit à Moïse un jour, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche et il lui dira tout ce que je lui commanderai. » Et donc le peuple attendait la venue d'un autre prophète semblable à Moïse. Dans la fin des temps, un homme viendrait envoyé par Dieu pour conduire le peuple vers une nouvelle espérance comme Moïse l'avait fait. Assurément, Jean était un grand prophète, envoyé de Dieu. Mais Jean n'était pas le prophète. Oh, permettez-moi de dire rapidement que l'autre, là, n'est pas le prophète. Il n'y en a qu'un qui est le prophète. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et comme un véritable témoin, par 3 fois, Jean reconnut qui il n'était pas. Je l'ai dit, il nous montre donc ainsi qu'il n'était pas du tout intéressé par qui il était. Il n'y avait pour lui aucun intérêt à répondre à des questions le concernant. Il n'était pas là pour ça. Il était envoyé par Dieu pour rendre témoignage à la lumière. Il confessa donc qu'il n'était ni le Christ, ni Élie, ni le grand prophète. Mes frères et sœurs, si nous voulons être des témoins de la lumière, nous devons reconnaître d'abord qui nous ne sommes pas. Nous ne sommes ni le Christ, nous sommes des chrétiens, disciples du Christ. Nous ne sommes pas Élie, nous ne sommes pas le grand prophète, mais par contre l'Esprit de Christ est en nous. Mais ce qui est clair, c'est qu'en tant que témoin de la lumière, nous ne cherchons pas à être en premier, mais nous cherchons à mettre Christ en premier. Il est important de savoir qui nous ne sommes pas. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Pour être un témoin de la lumière, nous devons savoir qui nous sommes. La délégation des sacrificateurs et des lévites ne pouvait évidemment se satisfaire des dénégations de Jean. Ils avaient été envoyés par leur chef pour trouver des réponses et ils devaient ramener des réponses. Alors ils ont continué à le questionner avec des questions ouvertes. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Que dis-tu de toi-même ? Et c'était là une opportunité, une porte qui s'ouvrait devant Jean pour témoigner et pour dire les choses. Mais quand on y réfléchit à ce moment-là, Jean aurait pu en profiter pour dire, voyez-vous, je suis le précurseur, je suis celui qui vient avant, je suis un grand prédicateur, n'est-ce pas, je suis un grand prophète, regardez les foules qui sont là, regardez le nombre de personnes qui viennent m'entendre, regardez les fruits de mon ministère, regardez le nombre de baptêmes. Tiens, j'y pense, je vais organiser mon ministère, je vais lancer une grande école prophétique, organiser des tournées dans le pays, écrire de nombreux livres. Mais vous savez que ce ne fut pas le cas. Jean ne se mit pas en avant. Il ne mit pas en avant les résultats de sa prédication. Il n'a certainement pas cherché à capitaliser autour de la renommée de son ministère. Il n'a pas cherché à paraître grand. Ah, il faut que je diminue. Et que lui croisse. Jean savait qui il était. Alors qu'est-ce que répondit Jean ? Il leur dit, « Je suis la voix. La voix qui crie dans le désert. » Jean ne se considérait pas comme une personne importante, il se voyait simplement comme une voix qui retentit dans le désert. Encore si la voix retentissait sur la place publique, c'est une chose, mais dans le désert, à part le vent, qui est là pour vous entendre. Et puis considérons aussi ceci, quelle belle image. L'évangile de Jean commence en nous parlant de la parole. Au commencement était la parole. Parole éternelle, parole créatrice, parole rédemptrice, la parole est Dieu. Et lui, il dit simplement, moi je suis la voix. Lui, la parole, moi je suis la voix. Lui, la parole éternelle, oh moi, je suis une voix dans le désert, une voix fragile, une voix temporaire, mais la parole demeure. C'est vrai, mes frères et sœurs, que Paris n'est pas un désert, n'est pas le désert de Judée, mais des fois, quand nous rendons témoignage, nous avons vraiment l'impression d'être dans un désert spirituel. Et la voix de Jean portait un message, aplanissait le chemin du Seigneur, le prophète Ésaïe l'avait annoncé. À l'époque, un peu comme aujourd'hui, avant qu'un personnage imminent n'arrive dans une ville, il était bon de boucher les trous des routes. Je sais qu'aujourd'hui, ça ne s'appelle plus la DDE, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, mais on voit toujours ces camions orange, et vous savez qu'avant que tel personnage arrive dans la ville, eh bien, souvent, on va raboter tous les dodanes, on va combler les nids de poules, enlever les gravillons, pour que la belle C6 ou autre chose ne soit pas chahutée quand monsieur ou madame va passer. Eh bien, à l'époque, c'était pareil. Avant qu'un personnage éminent arrive, il y avait donc celui qui préparait la voie. C'est un rôle important. Et Jean se voit ainsi, il est celui qui prépare l'arrivée du Seigneur. Il prépare les cœurs à recevoir la lumière, à recevoir la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, dans ce monde, dans notre génération, nous sommes appelés à être des voix. Nous ne sommes pas la parole, nous sommes des voix. La parole est éternelle, nous sommes des voix parfois fluettes, bien fragiles. Temporaire, mais nous sommes appelés à être une voix dans notre génération. Nous avons parfois l'impression de crier dans un désert. Nous sommes appelés à être une voix, quelle que soit la situation que nous traversons. Et en étant une voix de Dieu, dans notre temps, nous préparons les chemins des cœurs à l'arrivée du Seigneur, la parole éternelle. Et cela m'amène à mon troisième point, pour être des témoins de la lumière, premièrement, nous devons savoir qui nous ne sommes pas. Deuxièmement, savoir qui nous sommes. Troisièmement, nous devons pointer vers Jésus. En dépit de ces réponses, les hommes de la délégation de Jérusalem n'étaient pas encore satisfaits et ils avaient bien des questions à lui poser, particulièrement concernant ce qu'il faisait. Et ils lui ont dit, mais dis donc, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, alors pourquoi baptises-tu ? On le comprend. Leur question portait sur l'autorité à laquelle Jean faisait référence pour baptiser. Autrement dit, dis donc, qui t'a donné le droit de baptiser ? Un peu d'histoire, c'est important. Le baptême n'était pas une nouveauté pour les Juifs. Mais les Juifs baptisaient ce qu'on appelle les prosélytes, c'est-à-dire les gens des peuples, autres que le peuple juif, qui se convertissaient au judaïsme. Et quand ils se convertissaient au judaïsme, ils les baptisaient. Quant à eux, les Juifs, notamment avec ceux qu'on appelle les Esséniens, pratiquaient des ablutions dans des bains. Mais ce n'était pas des baptêmes. Et voilà que Jean, au Jourdain, baptise. Mais il ne baptise pas des néophytes, des prosélytes. Il baptise des Juifs. De quelle autorité baptises-tu des Juifs ? Qui t'a donné ce droit ? Parce que pour eux, le baptême était réservé aux autres. Mais eux, Juifs, n'avaient pas besoin d'être baptisés. Ils n'avaient pas besoin d'être baptisés du baptême de repentance parce qu'ils étaient déjà le peuple de Dieu. Parce qu'ils avaient les oracles, ils avaient les alliances, ils avaient la circoncision. Ils n'avaient pas besoin d'être baptisés, tout au plus d'avoir quelques ablutions rituelles pour, entre guillemets, se purifier à leur vue. Mais baptisés, comment faire ? Comment fais-tu cela ? Jésus leur dira plus tard, à ces mêmes religieux, en refusant de vous faire baptiser par Jean, vous avez rendu nul, caduc, le plan de Dieu à votre égard. Et nous le voyons là, les causes et l'origine, pardon. De quel droit, de quelle autorité Jean baptisait donc des Juifs ? La réponse de Jean éclaire le rôle d'un témoin. Il n'a pas cherché à argumenter, trouver une position doctrinale. Il a fait qu'une chose. Il a orienté la réponse vers Jésus. Il leur a dit en quelque sorte, écoutez, on l'a vu, ce n'est pas de moi dont il s'agit ici, mais je vais vous dire, ce n'est pas même du baptême dont il est question, ni de discuter de l'autorité par laquelle je baptise. L'important, c'est lui, vous ne le connaissez pas, mais il est au milieu de nous, le Messie. C'est de lui qu'il est important de parler. Parce que tout le reste, ok, oui, on va pas le jeter, mais tout le reste n'a d'importance qu'à cause de lui. Lui, le Messie, vient avant toute chose. Mes frères et sœurs, on peut vous interroger, pourquoi faites-vous ceci, pourquoi ça, et pourquoi chantez-vous, pourquoi louez-vous à haute voix, pourquoi priez-vous à haute voix, pourquoi levez-vous les mains, pourquoi prenez-vous la Sainte-Seine comme ceci, pourquoi parlez-vous en langue, pourquoi, de quelle autorité faites-vous ceci, de quelle autorité imposez-vous les mains. On peut passer des heures. Mais Dieu ne nous demande pas de débattre théologiquement. Il nous conseille une seule chose, de rappeler que l'important, c'est Jésus. C'est Jésus. Tout le reste est futile tant que Jésus n'est pas annoncé et reçu dans les cœurs. Jean n'avait qu'un centre d'intérêt. Il n'avait qu'un intérêt, celui qui devait venir. Il vivait dans une attente, Jean. Il avait été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, pour préparer les cœurs. Seulement, il ne connaissait pas le Messie. Il savait qu'il était là. Il savait qu'il devait venir. Mais il ne le connaissait pas, il ne l'avait pas encore rencontré. Toute sa vie, il la vivait dans cette attente qu'il vienne. Et Dieu l'a dit, un jour tu le verras, mon esprit descendra sur lui. Mais alors qu'il ne le connaît pas, entre parenthèses, nous avons cet avantage sur Jean, nous le connaissons. Il s'appelle Jésus. Il est né dans le village de Bethléem, il a grandi à Nazareth, il est mort à Golgotha, mais il est ressuscité et il est dans les cieux. Gloire à Dieu. Mais lui, il ne le connaissait pas. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans les versets qui suivent, à partir du verset 26 jusqu'au verset 34, il va dire tout ce qui concerne Jésus. tout l'essentiel, alors qu'il ne le connaît pas encore. Et particulièrement, il a cette parole au sujet des lacets, des courroies, des souliers. Là aussi, il faut que je fasse un peu d'histoire. Il existe un enseignement, un ancien enseignement rabbinique qui dit ceci, écoutez-moi. « Tout service qu'un esclave accomplit pour son maître, un disciple devrait le faire pour son rabbin, pour son professeur, à l'exception du délassage des courroies de ses souliers. Délier la courroie des souliers d'un autre était la chose la plus vile et la plus subalterne que l'on concevait à l'époque. C'était une activité délaissée aux esclaves les plus méprisés. Une chose que les disciples ne devaient donc pas faire, même si leur professeur, leur rabbin, leur demandait. Et Jean dit, je ne suis même pas comme l'esclave le plus faible, parce que je ne suis pas digne de délier la courroie des souliers de celui qui doit venir. Il faut que je diminue et que lui soit élevé. Que voulait-il dire ainsi ? Il voulait parler de la grandeur et de la gloire de celui qui devait être manifesté en Israël. Et puis, au verset 29, il va avoir cette déclaration extraordinaire. C'est le lendemain, nous ne savons pas si la délégation est repartie à Jérusalem, mais Jean continue son ministère, il continue de prêcher, et voilà qu'au sein de la foule, un homme apparaît. À vrai dire, il le connaît, parce qu'ils sont parents, ils sont cousins. Cet homme, c'est Jésus. Il le voit venir. Mais alors qu'il s'approche, quelque chose se passe. Et quand Jean le voit venir vers lui pour se faire baptiser à son tour, il déclare ceci, devant la foule, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et c'est peut-être la déclaration la plus importante du Nouveau Testament. Je ne sais pas si Jean-Baptiste est un homme du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, je crois que c'est celui qui fait le lien entre les deux. Et dans le témoignage de Jean-Baptiste, c'est tout l'héritage des prophètes, tout l'héritage de l'Ancien Testament qui se retrouve dans cette seule parole. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toute l'espérance portée par Israël, depuis Abraham jusqu'à Moïse, jusqu'au prophète, est là dans cet homme qui voit Jésus venir à lui. Voici l'agneau de Dieu. Et il fait bien sûr référence alors à toute la culture d'Israël, tout l'héritage d'Israël. C'est lui l'agneau de Morija. Lui l'agneau que Dieu a donné à Abraham sur la montagne. C'est lui l'agneau de Pâques. C'est lui l'agneau dont Ésaïe parlait au chapitre 53 de son livre. Il n'y a donc aucun doute pour Jean à ce moment-là. Jésus est l'accomplissement de tous les sacrifices, de toute l'espérance d'Israël. Jean dit aussi ces choses. Que l'agneau sacrifié le serait pour ôter les péchés du monde. Et le verbe est très fort, ôter. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux sacrifiés couvrait les péchés, les couvrait. Mais le sang de Jésus est plus puissant. Oui, il couvre, mais fait plus. Il ôte, il enlève. Il purifie les consciences et les vies. Il délivre de la puissance de l'iniquité. Il nous rend libres. Et celui qui se repent auprès de Dieu et place sa foi en Jésus-Christ est entièrement pardonné et purifié de ses péchés. Dieu prend son péché. Il ne se contente pas de le couvrir. Il le prend et il le jette au loin. Et il nous en débarrasse pour que plus jamais nous ne soyons de nouveau harassés par lui. Mais continuons dans cette déclaration. Et c'est une chose explosive. Car Jean dit ceci. Il ôte le péché du monde. Dans le contexte, c'est extraordinaire. Il ne s'agit plus maintenant simplement du peuple d'Israël, mais il s'agit de toutes les nations. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, le sang versé pour nous à Golgotha, est suffisant et efficace pour purifier le péché de tous les hommes, juifs, non-juifs, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit notre éducation, quelle que soit notre origine sociale, il n'y a qu'un seul sauveur, qu'un seul salut. Le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant. Il est suffisant pour tous les hommes. Peut-être, et je le dois en fait rajouter, il est suffisant pour tous les hommes, mais il est efficace pour ceux qui croient. Suffisant pour tous les hommes, mais il ne devient efficace que pour ceux qui croient en lui. Et dernier point dans cette déclaration extraordinaire de Jean, j'y vois aussi une déclaration signifiant qu'après le sacrifice de l'agneau de Dieu, il ne serait plus nécessaire de verser le sang des animaux. Le sacrifice de l'agneau de Dieu rend caduque tous les sacrifices qui étaient encore offerts au temple. Car la croix est suffisante. Et la croix est un sacrifice unique et parfait. Alléluia. Jean voit donc venir Jésus à lui. Et au verset 31 et verset 33, il va dire par deux fois, « Je ne le connaissais pas. » Je viens de vous dire qu'il le connaissait. Je ne sais pas si vous avez vraiment grandi ensemble. Pas bien loin, certainement. Puisque vous savez même que, alors que Marie portait encore Jésus dans son ventre, elle est allée rencontrer sa cousine Élisabeth, qui elle aussi était enceinte, et quelque part ils se sont même connus avant de naître. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit dès ce moment-là. Peut-être se sont-ils rencontrés. Mais Jean, quand il dit qu'il ne le connaissait pas, c'est dans le sens de le connaître comme le Messie de Dieu. Il le connaissait comme Jésus, mais pas comme le Messie de Dieu. Pour connaître Jésus comme le Messie de Dieu, une chose est absolument nécessaire et requise, c'est une révélation de Dieu. Dieu avait dit à Jean, « Tu le reconnaîtras, parce que sur lui descendra l'Esprit Saint sous une forme corporelle de colombe. Lorsque tu verras l'Esprit, alors tu le reconnaîtras, c'est lui mon Messie. » Oh, on peut connaître Jésus et dire qu'il est Seigneur, qu'il est Messie, tout ce que vous voulez. Les hommes dans le monde peuvent le réciter s'ils le veulent, mais ce n'est purement qu'une connaissance théologique, traditionnelle, intellectuelle. Mais s'il nous faut connaître comme Jean en parle là, alors il nous faut une révélation de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire comprendre réellement ce qu'est Jésus, le Messie de Dieu. Et ça me rappelle Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, heureux sois-tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Jean vit donc Jésus venir vers lui pour être baptisé. Je ne vais pas m'arrêter sur ce thème du baptême, nous ne le voyons pas dans l'évangile de Jean. Mais Jean met l'accent surtout sur la révélation de Jésus au peuple comme le Messie. Et nous voyons que cette révélation est associée à l'Esprit de Dieu. Jean l'avait dit, moi je vous baptise d'eau, lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et Jean vit l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus. Et il reconnut par là que Jésus était le Messie, celui que Dieu avait lui-même oint. Il y a deux tableaux qui pour moi sont liés l'un à l'autre, même s'il y a 1000 ans d'écart entre les deux. D'un côté nous avons Samuel et David. Et de l'autre côté, nous avons Jean-Baptiste et Jésus. Et nous avons Samuel qui est envoyé à Bethléem, dans la maison d'Isaïe. et il doit trouver le nouveau roi d'Israël et l'oindre. Et Dieu va lui apprendre que ce n'est pas par les yeux de l'homme que l'on découvre le Messie de Dieu, mais c'est avec une révélation du Saint-Esprit. Et les fils sont passés les uns après les autres jusqu'à ce que le petit jeune, le petit blond là, qu'on a oublié, qui est derrière les troupeaux, arrive. Et quand il l'a vu, il l'a reconnu. C'est lui le Messie. Et Samuel a pris la corne d'huile et il a oint David, qui est devenu, dans la tradition hébraïque et biblique, un Messie et aussi un fils de Dieu et un roi d'Israël. 1000 ans plus tard, Jean baptise au Jourdain. Il voit Jésus venir et il voit l'Esprit Saint descendre sur lui. Jean-Baptiste est le nouveau Samuel et Jésus est le véritable David. Mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui prend la corne d'huile. Parce que comment une corne d'huile aurait pu oindre notre Seigneur? Mais c'est Dieu lui-même qui a déversé en plénitude son esprit sur Jésus. Et Jean-Baptiste a été le témoin de cela. Et nous avons reçu son témoignage. Et il le dit, verset 34, « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Publiquement, Jean affirma que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était divin, à la fois homme et Dieu. Il est le choix de Dieu, il est l'envoyé de Dieu pour le salut des hommes. Il est celui qui était avec Dieu et qui était Dieu. Waouh ! Quel témoignage ! Rappelez-vous, il ne le connaissait pas, mais il a dit tout. Tout dit ! Son témoignage ne portait pas sur lui, Jean-Baptiste, sur son ministère. Non, il n'avait qu'un intérêt, Jésus, Jésus, Jésus. Je viens de passer une semaine avec Jean. Et j'ai été heureux de passer une semaine avec Jean-Baptiste. J'ai commencé à travailler ce message lundi dernier. Vous savez, quand vous passez une semaine avec Jean-Baptiste, vous faites un petit tour dans le désert. Et puis avec Jean, vous allez à l'essentiel. Et plus vous lisez la parole, plus vous méditez sur Jean. Vous faites face à son témoignage, à sa parole, à sa vie, à son ministère. Et plus vous avez envie quelque part de vous dépouiller. Tant de choses que nous portons. Notre habit de chrétien, tout ce qu'on rajoute. Nous n'allons pas nous habiller en peau de chameau. Mais avec Jean, nous revenons à l'essentiel. Je ne peux que vous conseiller cette chose en ce début d'année scolaire. Passez donc une semaine dans le désert avec Jean. Passez une semaine avec lui. Allez à la rencontre de Jean. Allez à la rencontre de son message. Allez à la rencontre de cet homme. À travers ce que les évangiles nous en disent, à travers ce que Jésus en dit. Je peux vous dire, ça va vous faire du bien. Tout en restant à Paris dans vos activités, mais en demeurant peut-être dans un temps dans votre chambre pour faire taire les bruits de ce monde, c'est comme si vous alliez faire un voyage dans le désert de Judée. Et la parole de Dieu va agir en vous. Seigneur, je veux revenir à une authenticité. Je veux revenir à une simplicité. Je veux revenir à une intégralité. Et en allant vers Jean, quelque part, on est quand même éprouvé. Parce que cet homme tellement simple, rustique, nous met à l'épreuve, il nous confronte face à toute notre sophistication. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de réentendre le message de l'Évangile. D'entendre cet appel à la sainteté, à la repentance, mais encore plus. Parce que pour moi, l'appel à la sainteté, à la repentance n'a aucun sens si derrière, il n'y a pas l'annonce du Messie. Parce que c'était là, pour Jean, l'essentiel, préparer l'arrivée du Messie. Et je peux vous dire que si vous passez quelques jours avec Jean, au bout du compte, vous allez rencontrer le Messie. Parce que Jean n'a qu'une mission, hier et aujourd'hui encore, à travers ce qu'il nous lègue dans la parole de Dieu, c'est préparer nos cœurs, c'est aplanir les chemins. Revenez vers la source, revenez vers cet évangile, et je peux vous dire qu'il va boucher les trous, aplanir les bosses, préparer la venue de Jésus dans votre vie. Vous avez faim et soif de Jésus. Revenez donc vers Jean-Baptiste et il vous conduira à notre Seigneur encore une fois. Cette semaine a été bénie pour moi. Elle m'a ramené vers l'essentiel, de me rappeler ce qui est important dans la vie d'Église, dans la vie chrétienne, dans le témoignage. Et puis, je suis encore étonné lorsque Jésus dit, mais c'est Jésus qui le dit. Je le crois, même si j'ai bien du mal à vraiment croire ce qu'il dit, quand il dit que Jean était le plus grand des prophètes, mais il est le plus petit dans le royaume de Dieu. Et je dis, Seigneur, lui, le plus petit dans le royaume de Dieu, mais pour nous, c'est un géant de la foi. Comment pouvons-nous, Seigneur mon Dieu, être au-dessus de lui? Le Seigneur nous dit, tu vois, il a été envoyé, mais moi je t'envoie aussi avec mon esprit. Avec mon esprit, avec mon message. Lui était l'ami. Nous, nous sommes les frères. Et nous sommes les sœurs de Jésus. Lui a préparé la voie. Nous, nous marchons dans la voie. Et en cela, nous sommes encore plus bénis que lui. Mais que nous puissions nous rappeler le témoignage de Jean et nous dire qu'à notre tour, nous sommes appelés à être une voix. Une voix peut-être un peu fluette. Une voix un peu faible, fragile. Mais nous sommes appelés à être une voix dans ce monde. Nous sommes appelés à être une lumière. Paul dit des flambeaux portant la parole de vie. Nous sommes appelés à briller de la lumière de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être une voix portant le message de Jésus-Christ. Parce que l'important, ce n'est pas nous. L'important, c'est lui. L'important, c'est lui. Car aucun homme, quel que soit son ministère, ne pourra changer cette génération. S'il ne s'attache pas d'abord à mettre Jésus en premier. Jean n'a pas voulu capitaliser, il n'a pas voulu mettre son ministère en avant, il a toujours mis Jésus en avant. Quelle inspiration! Mon frère, ma sœur, prends quelques jours avec Jean. Mon frère, ma sœur, puisse le Seigneur aussi te conduire à être un véritable témoin. Petite lampe qui brille pour une heure. Une voix, peut-être fragile. Mais je te dis que l'Esprit de Dieu t'accompagnera sur tout ce chemin. J'aimerais dire aussi, Seigneur, qu'il te soit agréable pour notre pays de France de susciter une voix comme celle de Jean-Baptiste, une voix comme celle de Billy Graham. Il y a beaucoup de bruit dans notre monde, beaucoup d'agitation politique, religieuse, sociale. Seigneur, nous aurions besoin d'entendre la voix d'un prophète, une voix qui s'élève du désert de cette nation pour appeler les hommes à la repentance et au salut. Si Dieu, il te plaisait de nous accorder encore un tel serviteur, ô combien nous serions bénis d'entendre son ministère. Dieu l'a fait pour tant de nations. S'il nous accordait un Jean-Baptiste, un Billy Graham pour cette génération, qu'il plaise à Dieu, ça ne nous dispensera pas d'être une voix à notre tour. Peut-être ce matin, pour conclure, frère, ma sœur, toi aussi, tu ressens le besoin de passer quelques jours avec Jean. Parce que tu as besoin de revenir vers Jésus. Tu tu as besoin que Jésus reprenne une dimension dans ta vie. Ce que j'ai dit a pu t'interpeller, revenir à l'authentique, au simple, au véritable, à l'intégral, à tout. Et tu ressens dans ton cœur, parce qu'il y a tellement bruit autour de toi. Seigneur, je voudrais un temps de désert et entendre la voix de Dieu. Et si ce message a pu toucher ton cœur, alors je veux t'encourager, prends ce temps. Prends ce temps. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, oh, s'arrêter sur Jean-Baptiste, Seigneur, nous, me laisse sans voix devant un tel homme. Il n'avait pas même 30 ans, Seigneur. Il ne s'est pas soucié de fonder une famille, il ne s'est pas soucié de préparer un projet professionnel d'avenir, d'avoir tel ou tel bien matériel. Seigneur, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait dans la vie de cet homme, c'était de connaître le Messie et de préparer le peuple à rencontrer le Messie. Seigneur, cette semaine avec Jean-Baptiste m'a fait du bien. Et je prie que ce message puisse encourager plusieurs parmi nous à revenir à l'essentiel. Et que tu puisses, Seigneur, faire de nous, à travers ta parole, des témoins de la lumière, afin que les hommes croient à travers nous. Nous ne sommes pas la parole, nous ne sommes pas la lumière, nous ne sommes qu'une voix, nous ne sommes que des flambeaux, mais l'Esprit de Dieu est sur nous. Nous ne sommes qu'une voix fluette, qu'une voix fragile, qu'une voix temporaire, nous ne sommes qu'une petite lampe qui brille pour une heure, mais l'Esprit de Dieu est avec toi. Puisses-tu, Seigneur, faire en sorte que la voix de l'Évangile puisse être entendue dans cette génération si bruyante. Te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.